Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire des enfants Finali. Deux petits garçons juifs de 2 et 3 ans, Robert et Gérald Finali, qui se retrouvent orphelins à Grenoble à la fin de la guerre, leurs parents étant morts en déportation, et qui sont happés par des réseaux catholiques qui, pendant 8 ans, vont les cacher pour ne pas les rendre à leur famille qui les réclame au prétexte qu'ils ont été baptisés catholiques. Une histoire que nous allons débriefer ensuite avec Robert Finali lui-même, qui vit aujourd'hui en Israël. J'ai écrit cette histoire avec Okis. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire débute à la fin de la guerre, en 1944, dans la région de Grenoble, au moment où la Gestapo redouble d'efforts pour arrêter des juifs. À la tronche, dans la banlieue de Grenoble, vit un couple de juifs autrichiens, les Finali, Fritz et Annie Finali. Quand Hitler a mis la main sur leur pays, ils sont venus se réfugier en France. Ils s'y croyaient en sécurité. Et maintenant, ils vivent dans l'angoisse. L'angoisse d'une rafle. Or, ils ont deux enfants. Robert, qui a 3 ans, et Gérald, qui en a 2. Alors, ils décident de les mettre à l'abri. Un matin, ils vont les planquer à la pouponnière de la tronche.
Merci de vous occuper d'eux. Au revoir, les enfants. Au revoir. On se reverra, je vous le promets.
Et parce qu'ils savent que leur avenir est sombre, les Finali vont ensuite voir une de leurs amies, Madame Poupard.
Il nous arrive quelque chose, Madame Poupard. Je ne sais pas si on nous emmenait, qu'on ne revenait pas. Je vous demande de prendre contact avec ma sœur. Elle est réfugiée en Nouvelle-Zélande. Elle s'appelle Margaret. Margaret Fischel. Et de lui confier les enfants, hein. C'est leur tante. Elle fera ce qu'il faut.
Un matin, les Allemands débarquent chez les Finali. Et la Gestapo les conduit à Drancy, près de Paris, où s'entassent les Juifs en partance pour les camps.
Monsieur Finali, avez-vous des enfants?
Non. Non, on n'a pas d'enfants.
On les met dans un train pour Auschwitz. On ne les reverra jamais. Leurs enfants ne les reverront jamais. Après le départ des parents pour Drancy, Madame Poupard va récupérer Robert et Gérald à la pouponnière de la tronche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Les garder? Elle ne peut pas. Ça serait trop risqué. Appeler la tante en Nouvelle-Zélande, c'est la consigne des parents. Mais la Nouvelle-Zélande, en pleine guerre, c'est trop loin, c'est impossible. Et puis, les parents vont sans doute rentrer après la guerre. Non. Non, pour l'instant, elle veut juste les mettre à l'abri. Et donc, elle se tourne d'abord vers les religieuses de Notre-Dame de Sion.
Ah non, Madame Poupard, nous ne pouvons pas les prendre. Ils sont beaucoup trop jeunes. On se ferait repérer. En revanche, vous devriez aller voir Mademoiselle Brun. C'est la directrice de la crèche municipale. Un de plus ou de moins, ça ne se verra pas. Elle pourra peut-être vous aider.
Va pour cette Mademoiselle Brun. Le problème, c'est que Mademoiselle Brun cache déjà 9 enfants juifs au château de Vif.
Je suis désolé, mais 9 enfants, c'est déjà beaucoup, hein. Je dois m'occuper de tout, de les nourrir, de les habiller, de les éduquer. Je peux pas en prendre plus, hein. De plus, non, c'est pas possible.
Bon. Et donc, Madame Poupard, désespérée, retourne voir les religieuses.
Enfin, ma sœur, faut faire quelque chose. Vous pouvez pas les laisser tomber.
Écoutez, tout ce que je peux faire, si Mademoiselle Brun a accepté de les prendre, c'est lui verser une petite pension pour couvrir les frais. Ça vous va comme ça?
C'était donc une question d'argent. Et Mademoiselle Brun, finalement, accepte de prendre les 2 petits en plus des 9 autres. Et voilà comment, un matin, Robert et Gérald Finali, deux petits bonhommes de 2 et 3 ans, débarquent au château de Vif, au bon soin de Mademoiselle Brun, qu'ils appellent assez vite Maman Brun, mais en vérité, ça n'est pas elle qui s'en occupe, hein, c'est sa gouvernante, Marie. Mais bon, ils sont à l'abri. Arrive la fin de la guerre. Robert et Gérald Finali ont alors 4 ans et 3 ans. Et les semaines passent, et les parents ne rentrent pas. Ils ne donnent pas non plus de nouvelles, et assez vite, il faut se rendre à l'évidence. Ils sont morts à Auschwitz. Et Robert et Gérald sont orphelins. À ce moment-là, Madame Poupard aurait dû appeler Margaret, leur tati de Nouvelle-Zélande, comme c'était prévu, comme les parents l'avaient demandé. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que pour elle, les gamins sont casés chez Mademoiselle Brun. La question est réglée, ils sont à l'abri. Et de toute façon, ces gens en Nouvelle-Zélande ne les connaissent pas. Et puis les enfants sont trop petits pour se souvenir de leurs parents. Ils démarrent une nouvelle vie. Et pourtant, la tati Margaret se manifeste. Elle écrit au maire de la tronche. Elle veut des nouvelles de son frère et de sa belle-sœur. Est-ce qu'ils sont rentrés? Le maire lui répond. Ils sont morts en déportation. Mais j'ai une bonne nouvelle. Les enfants sont vivants, grâce à une Mademoiselle Brun. Margaret écrit donc tout de suite à cette formidable Mademoiselle Brun qui a sauvé ses neveux de la mort. Elle est prête à récupérer les enfants. C'est sa famille. Elle est juive, comme eux. Elle est touchée par le drame qui les frappe, même si elle ne les a jamais vus. Et après tout, ils ont un peu de son sang dans leurs veines. Quand Mademoiselle Brun lit sa lettre, elle est furax.
Oh, 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 oh. Elle me demande de rendre les enfants. Non mais ça va pas, non. Rendre les enfants. Et puis, peut-être que les parents vont finalement rentrer. Et ces gens-là, à l'autre bout du monde, ils les ont jamais vus. Et maintenant, ils veulent que je leur donne les enfants.
Mademoiselle Brun ne répond pas à la lettre de la tante Margaret. Qu'importe. Margaret envoie une deuxième lettre. Elle écrit « Ces enfants sont un héritage sacré. Sacré. » Mais Mademoiselle Brun ne répond pas à cette lettre non plus. Ni à celle d'après. Et les lettres s'accumulent. Et puis un jour, finalement, Mademoiselle Brun prend sa plume. Je vous lis. Ces enfants, ils étaient maladifs quand je les ai pris. Et j'en ai fait de beaux enfants. Je les élève entièrement à mes frais. J'ai pour eux une immense affection. Et qu'en Nouvelle-Zélande on se rassure, je les élève bien sûr dans la religion juive. Il faut lire entre les lignes qu'elle ne les rendra pas. Et les mois passent. Robert et Gérald sont maintenant internes dans des écoles catholiques. Pour les vacances, ils rentrent au château de Vif, où ils retrouvent leur chère Marie, la gouvernante, et leur maman Brun, dont je vous redis, ne vous accrochez pas à ce maman, qu'ils n'ont aucune relation privilégiée avec elle. Il y a d'autres enfants au château. Et par ailleurs, Mademoiselle Brun n'est pas très tendre avec eux. Mais la tati Margaret n'a pas lâché l'affaire. Elle a obtenu 2 permis d'immigration en Nouvelle-Zélande. Elle explique dans ses lettres que la maison est prête. Elle habite loin, aux antipodes, mais elle veut coûte que coûte récupérer ses neveux. La tati Margaret appelle alors sa sœur Edwige qui, depuis la fin de la guerre, habite en Israël avec son mari Moshe.
Où dis-tu que seraient les enfants, Margaret ?
Ils seraient à Grenoble, en France, Edwige. À Grenoble, dans les Alpes.
Grenoble ? Mais Moshe a un ami là-bas, à Grenoble. Moïse. Il l'appelle immédiatement.
Il faut absolument que tu ailles voir cette Mademoiselle Brun, Moïse. Oui. Oui, elle doit absolument rendre les enfants, hein, à ma belle-sœur, Margaret. Tu entends, hein? Tu vas la voir.
Et un matin, Moïse va toquer chez Mademoiselle Brun.
Bonjour. Je suis envoyé par la famille Finali. Je peux entrer ?
L'autre en face devient hystérique.
Ha ! Vous les juifs, alors vous êtes une belle bande de lâches, hein ? Vous abandonnez vos enfants, hein, et vos maisons au lieu de combattre, et puis après vous avez le toupet de venir me réclamer vos enfants. Madame, j'exige de voir les enfants pour leur dire qu'ils ont une famille. Une famille qui les attend, hein, avec impatience.
Jamais. Jamais vous ne les reverrez. Jamais, vous m'entendez ? Et puis vous savez quoi ? J'en ai fait des petits catholiques. Ils sont baptisés.
Et c'est vrai. C'était à Pâques dernier, elle les a fait baptiser à l'église de Vif par le curé, l'abbé Pichat. Moïse a compris qu'il va devoir en passer par la justice. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Mademoiselle Brun a un peu pipé les dés. Elle s'est faite nommer tutrice provisoire des deux garçons lors d'un conseil de famille présidé par un juge à qui, bien sûr, elle a oublié de dire qu'ils avaient une famille qui les réclamait. Et de toute façon, quand Moïse veut saisir la justice, les deux gamins ont disparu. Mademoiselle Brun est allée les cacher, d'abord dans un couvent dominicain, sous un faux nom, Louis et Marc Quadri, puis dans un collège catholique où ils s'appellent Louis et Marc Brun. Collège d'où ils ont l'interdiction de sortir, sous quelque prétexte que ce soit. Mais la tante Margaret et les siens ne lâchent pas. Et le 31 mai 1952, un juge convoque tous les acteurs de l'affaire au palais de justice de Grenoble. Les enfants sont grands maintenant. Robert a 11 ans et Gérald 10. Et le juge s'aperçoit stupéfait que les deux gamins ne sont au courant de rien. Que Mademoiselle Brun ne leur a jamais parlé de cette tante qui les réclame. Mademoiselle Brun sent que le vent est en train de tourner. Elle quitte la salle d'audience en hurlant.
« Ces juifs-là, ils mentent comme ils respirent, hein !»
Comme quoi on peut avoir sauvé des enfants juifs et être totalement antisémite. Et elle a raison de s'énerver, Mademoiselle Brun. Parce que le juge, au bout du compte, lui ordonne de remettre les enfants à leur famille.
« Je vous donne un mois pour vous exécuter, mademoiselle. »
Un mois. C'est long. Quelques jours plus tard, Moïse, l'ami de la famille, se présente accompagné d'un huissier et d'un commissaire de police à la crèche municipale.
« Mademoiselle Brun ? Ah non, elle n'est pas là. Elle est en congé maladie. »
« Tu parles ? Elle s'est enfuie avec les enfants. » Moïse dépose immédiatement une plainte pour enlèvement. Quelque temps plus tard, Moïse, qui recherche toujours les enfants, reçoit la visite d'un jeune homme à l'accent autrichien.
« Bonjour, monsieur. Je m'appelle Otto. Je suis l'oncle de Robert et de Gérald. Je suis le frère de leur mère. Je peux entrer ?»« Figurez-vous qu'il m'est arrivé une drôle d'histoire. J'ai reçu il y a quelques mois une lettre d'une certaine Mademoiselle Brun qui m'expliquait que mon neveu Robert, dont elle avait la carte, devait faire des études de médecine, que c'était long et coûteux, et que pour l'inscrire, elle avait besoin que je la désigne comme tutrice. Et vous comprenez ce qui m'a surpris, hein, c'est qu'il engage des études de médecine à 11 ans, parce qu'il a 11 ans, n'est-ce pas ? Et en France, on fait des études de médecine à 11 ans ?
Et là, Moïse éclate de rire. Cette Mademoiselle Brun n'a décidément aucune limite. Mais c'est la suite qui est intéressante.
Figurez-vous que cette Mademoiselle Brun m'a réécrit il n'y a pas longtemps. Elle me propose de venir la voir dans un couvent, à Strasbourg. Elle dit qu'elle veut parler avec moi de l'avenir des enfants.
Excellente nouvelle. Elle est donc dans un couvent à Strasbourg. On va pouvoir la coincer. Il est prévu que l'oncle Otto aille seul à ce rendez-vous. Mais voilà ce qui est convenu. Si les enfants sont là, ils trouvent un prétexte pour s'absenter, là il prévient Moïse, et ils débarquent tous les deux avec un huissier, et ils emmènent les enfants. mais ça ne va pas se passer du tout comme prévu. Car au monastère de Strasbourg, Mademoiselle Brun se présente entre deux moines et sans les enfants. C'est une coriace. À un moment, évidemment, en novembre 1952, Mademoiselle Brun se retrouve devant un tribunal pour non-présentation d'enfants. Et je peux dire que la salle d'audience déborde. Cette affaire commence à passionner les foules. Mais à la fin, figurez-vous que les juges donnent raison à Mademoiselle Brun. Dans la salle, le public est consterné, et pas que lui. Un éditorialiste réputé écrit « J'en appelle aux hommes libres, juifs, catholiques, protestants, agnostiques, à tous ceux qui croient en la dignité humaine, pour qu'enfin cesse le scandale des voleurs d'enfants. » Évidemment, la famille fait appel, et pour le deuxième procès, la tante Edwige d'Israël a fait le déplacement. Et Moïse a embauché une star du barreau, Maître Maurice Garçon. Une fois de plus, la salle d'audience est pleine à craquer. Il y a du monde jusque dans les couloirs. Mais déception, Mademoiselle Brun est absente.
Elle ne peut pas être là, Monsieur le Président, pour des raisons de santé. J'ai là un certificat médical, je vous le fais passer.
Elle a eu tort de ne pas venir, car elle est condamnée, arrêtée et écrouée le soir même à la prison de Grenoble. Au moment de son arrestation, elle lance
« Je vous préviens, je préférerais mourir en prison plutôt que vous dire où sont cachés les enfants. »
Car elle les a planqués, elle les a confiés à l'Église catholique. Et à partir de maintenant, le voleur d'enfants, c'est l'Église. Désormais, c'est Mère Antonine, la supérieure des religieuses de Notre-Dame de Sion, qui est à la manœuvre, avec la bénédiction du cardinal de Lyon, Monseigneur Gerlier. Elle commence par les planquer dans un collège à Marseille, sous un faux nom et une fausse date de naissance. Mais la photo des gamins est dans les journaux, on les a reconnus, il faut les changer de planque. Elle le fait en camionnette, comme dans les films de Louis de Funès. Elle les conduit à la paroisse Saint-Michel, toujours à Marseille. Elle est accueillie par l'abbé Mollard.
Je veux bien les prendre, oui, mais seulement pour quelques jours, ma sœur.
Le naïf. Les jours se transforment en semaines. Mais l'abbé Mollard a la trouille. Il ne veut pas se faire traiter de voleur d'enfants. Et donc il finit par s'en débarrasser. Le 29 janvier 1953, à minuit, il les rend à la mère Antonine, à la gare de Marseille. La nonne a décidé de les emmener loin, à l'autre bout de la France, à Bayonne, par le train de minuit 40. Quand elle arrive à Bayonne, Mère Antonine va tout droit au collège Saint-Louis de Gonzague, rue d'Espagne, dans le centre-ville, où le chanoine Silhouette les accueille. Une fois de plus, les enfants ont changé de nom, on les appelle maintenant François Martella et Antoine Oliveri. Mais le chanoine lit le journal, et il comprend très vite qui ils sont, et il n'a aucune envie d'être complice de leur enlèvement. Oui, ça a toujours été comme ça, dans l'église du Pays Basque, il y a des curés qui filent droit et des rétifs, et le chanoine est un rétif. Alors il appelle le procureur.
Monsieur le procureur, oui, bonjour. Le chanoine Silhouette à l'appareil. Dites-moi, je dois vous informer que j'ai chez moi au collège, là, les enfants finalistes, figurez-vous.
Et le procureur prévient tout de suite la famille. Mais quand Maurice arrive à Bayonne, eh bien ils ont à nouveau disparu. La mère Antonine a appris que le chanoine n'était pas fiable, elle est venue les reprendre. Moïse, puisqu'il est à Bayonne, en profite pour aller voir l'évêque, Monseigneur Terrier. Il veut le mettre face à ses responsabilités.
Ah, je ne suis au courant de rien, monsieur, non? Non, de rien. De toute façon, ça n'est pas si grave, enfin. Les enfants ne sont sans doute pas si malheureux là où ils sont. Entre nous, si cette Mademoiselle Brun ne les avait pas sauvés d'Allemagne, ils seraient morts, hein, maintenant. N'est-ce pas, hein? Et puis, ils ont tout de même été baptisés.
Oui, monseigneur, oui, ils ont été baptisés, d'accord, mais avant, ils ont été circoncis. En attendant, quand elle rentre à Lyon, Mère Antonine est arrêtée et envoyée en prison. Il était temps. Mais les curés du Pays Basque ont pris le relais. C'est C'est maintenant l'abbé Latzag, professeur de morale au grand séminaire de Bayonne, Bonjour la morale, qui est à la manœuvre. Son idée est de les faire passer en Espagne. Un soir de février 1953, il met les deux garçons dans une fourgonnette, direction Saint-Jean-de-Luz. Et là, il change de voiture et il les conduit jusqu'à la frontière, à Biriatou, où l'abbé Ibarbariu les héberge pour la nuit au presbytère. Le lendemain, l'abbé les réveille à l'aube. Il veut leur faire passer la frontière par la montagne, alors qu'il fait un temps épouvantable. Il neige, il y a 60 cm de neige sur le sol, et imaginez ces deux gamins qui ne sont absolument pas équipés dans le vent, les rafales de neige, frigorifiés. À un moment, Gérald n'en peut plus, il s'écroule. Le passeur le prend sur son dos et ils finissent par atteindre une auberge où, pour les réchauffer, on leur donne, figurez-vous, de l'anisette, de l'agnole. Et après, c'est reparti. Ils marchent à nouveau toute l'après-midi et en fin de journée, ils arrivent à une ferme. Ça y est, ils sont en Espagne, à Rentería. Ils y restent 2 jours et finissent par échouer au monastère bénédictin de Lascano. Pendant ce temps-là, en France, l'archevêque de Lyon, Mgr Gerlier, commence à comprendre qu'il a poussé le bouchon trop loin. Il y a une décision de justice, et la mère Antonine a été inculpée. Il sent bien qu'il faut qu'il trouve une porte de sortie. Et donc il prend contact avec le rabbin Kaplan, le grand rabbin de France. Il le connaît bien, et le rabbin lui doit une fière chandelle. C'est l'église catholique qu'il a planquée avec sa famille pendant la guerre. Il lui est redevable.
Mon cher Kaplan, voilà ce que je propose aux Finani. Je vous demande de jouer les intermédiaires auprès d'eux. On leur rend les enfants dans un délai d'un mois, disons, et en échange, ils abandonnent les poursuites contre les religieux impliqués. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, écoutez, je vais prendre attache avec eux, je vais voir.
La famille est d'accord, c'est ce qu'elle propose depuis le début. Un accord est donc signé entre les deux parties le 6 mars 1953. Sauf qu'en vérité, le cardinal Gerlier n'a pas la main sur les enfants. Ils sont en Espagne, où, figurez-vous, ils ne sont plus dans les mains des curés, mais dans celles des républicains basques en lutte contre le général Franco. Il est incapable de faire respecter l'accord qu'il a signé. Incapable. Il ne sait d'ailleurs pas où sont Robert et Gérald. L'Église catholique les a perdus. Mais bon Dieu, comment des catholiques ont pu s'égarer à ce point-là, c'est-à-dire priver deux petits orphelins de leur famille pendant 8 ans, au nom de Dieu? De quel Dieu? De quels évangiles? Il est alors décidé d'envoyer en Espagne une sorte de médiatrice, Germaine Ribière, qui a été résistante et qui a caché des enfants juifs. Elle se met à faire le tour des moines et des curés du Pays basque espagnol. Et elle finit par localiser les enfants. Ça y est, ouf, on a retrouvé Robert et Gérald. Germaine Ribière les fait immédiatement conduire au consulat de France. Et maintenant, il faut négocier leur sortie d'Espagne avec les autorités parce que ils sont entrés sans papier. Germaine Ribière va voir le gouverneur, qui n'est pas blanc-blanc dans cette affaire, et qui n'a pas l'air très convaincu de l'urgence qu'il y a à laisser partir les enfants.
« Mais enfin, monsieur le gouverneur, regardez par la fenêtre. Vous voyez les personnes là-bas? Ce sont des journalistes, Ils regardent dans notre direction. Ils attendent que j'agite un mouchoir blanc. En cas de difficulté avec vous. »
Le gouverneur appelle le ministre des Affaires étrangères de Franco.
« Si. Si, entiendo. Si. Seguro. » Muchas gracias,
? Il est d'accord, à une condition. Je vais voir les enfants. Je vais être certain qu'ils sont d'accord pour rentrer chez vous.
On lui amène les garçons. Et oui, bien sûr, ils sont d'accord. C'est fini. C'est la fin de cette folle histoire. Les deux enfants embarquent à bord d'une voiture escortée par 6 motards. Et ils franchissent la frontière. Demain, ils seront à Paris. À Grenoble, Moïse et la tante Edwige éclatent de joie quand le procureur les appelle pour leur dire que la voiture a passé la frontière. 8 ans
de combat. Et Moïse Keller, décide de partir sur le champ pour Paris, pour aller les accueillir. Les retrouvailles ont lieu dans une propriété en banlieue. Un détachement de gendarmes a été déployé, des dizaines de journalistes attendent, et la voiture transportant les enfants Finali fait son entrée dans le village. Gérald et Robert Finali en descendent. Ils sont souriants, ils ont l'air heureux, même si sans doute c'est un peu compliqué dans leur tête. Il va leur falloir du temps pour comprendre ce qui leur est arrivé. Ils ont maintenant 12 ans et 13 ans. On leur montre des photos de leurs parents. Ils ne les ont jamais vus, ils ne connaissaient que leur nom. Et Gérald est très ému de constater qu'il ressemble à sa maman et Robert à son papa. Ils doivent aussi apprendre à être juifs. Et ça ne cadre pas du tout avec ce que leur a appris Mademoiselle Brun et après elle la tripotée de curés complices. Les livres de catéchisme ne disaient rien de bon de ce peuple qui avait fait crucifier Jésus. Robert et Gérald Finali s'installent avec leur tante Edwige à Melun, près de Paris, où pour couper court au fantasme de tout le monde, il est décidé qu'ils mangeront la viande du boucher du coin. On ne va pas les forcer à manger cachère. Ça va comme ça. Et c'est là que Mademoiselle Brun fait sa réapparition. Elle est sortie de prison, et maintenant elle demande un droit de visite, figurez-vous. Elle n'a peur de rien. La tante Edwige en a marre de se battre. Elle décide le 23 juillet 1953 de s'envoler avec les enfants pour Israël. Israël où Gérald et Robert vivent toujours aujourd'hui. Et je suis très heureux d'appeler en direct en Israël Robert Finali qui est là au téléphone. Vous m'entendez bien, monsieur Finali ?
J'ai entendu tout ce que vous avez dit.
Ma première question me paraît une évidence. Est-ce que quelqu'un de France ou de l'Église catholique de France, monsieur Finali, s'est excusé auprès de vous d'une manière ou d'une autre de tout ça?
En principe, non. Mais il y avait, je me rappelle bien que, si je ne me trompe pas, il y avait une réunion à Paris avec la communauté juive et à Paris, la sœur principale de Notre-Dame de Sion, de la ville de Vienne, et qu'elle nous a dit qu'elle est Notre-Dame de Sion, regrette que nous avons subi durant ces années.
Donc ils se sont excusés quand même.
Oui, oui. Rien que Notre-Dame de Sion, les autres personnes, les catholiques, on n'a pas entendu de rien.
Est-ce qu'il vous reste, 65 ans après, du ressentiment, de la rancœur, de la haine peut-être à l'égard de ceux qui ont voulu, de force, faire de vous des petits Français catholiques?
C'est un peu pas difficile à répondre. Maintenant, je raisonne comme une personne adulte. Je dis que je ne sais pas si Mademoiselle Brun a fait parce qu'elle était catholique, elle voulait nous faire apprendre la religion catholique pour qu'elle ait sa place dans le ciel. Ça, on n'a jamais parlé avec elle à ce point de vue. Qu'on a été baptisé, je crois que le père Pichac, dont vous avez nommé, devait ne pas faire cet acte d'après son... Je crois que c'est la seule remarque que je dois faire.
Mais vous n'avez pas, comment dire, de haine. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, à 79 ans, de Mademoiselle Brun? Qu'est-ce que vous diriez d'elle?
Au commencement, elle était une personne qui a voulu nous sauver. Mais au moment qu'elle nous a fait baptiser en 1948 et qu'elle ne nous a pas fait rejoindre notre famille, elle ne s'est pas bien comportée. Mais jusqu'en 1945, c'était une personne qui faisait le meilleur pour sauver des gens de religion juive.
Mais d'après vous, quelle était ça? Sa motivation, pourquoi elle faisait ça? Pourquoi elle ne vous a pas rendu? Parce qu'elle voulait faire deux petits catholiques de plus? Ça n'a pas de sens.
Je crois que c'est la raison qu'elle n'a pas voulu nous rendre. Pour qu'on soit des catholiques et pour peut-être à cette occasion sauver son âme. d'après la religion catholique, je me rappelle.
Et Mère Antonine, qui est tout de même religieuse, d'un groupe particulier, Notre-Dame de Sion, a pour vocation de convertir des juifs au catholicisme. Donc elle fait ça avec une idée très précise.
Oui, ça c'est vrai. Personnellement, je n'ai pas connu la mère Antonine. Peut-être je l'ai vue une fois par hasard, mais c'est tout. Je n'ai pas parlé avec elle, je n'ai eu aucune conversation avec elle.
Ses motivations à la mère Antonine, vous diriez-vous oui. qu'elles sont antisémites?
Je ne sais pas. Elle fait que son groupe de religion lui a appris à faire. C'est pour ça qu'elle était sœur dans Notre-Dame de Sion. Son but était de faire, c'est pas un antisémite, c'est de pur de faire des juifs qui pensaient qu'ils étaient du mauvais côté de la religion, de leur faire apprendre la bonne religion, c'est qu'elle avait droit pour sauver les âmes de ces personnes, c'est ce que je pense.
À partir de quand dans l'histoire, vous et votre petit frère Gérald, qui vit à côté de chez vous, enfin vous vous voyez tous les jours, je suppose.
Non, il est à quelques 300 kilomètres de chez moi, il est à Haïfa, moi je suis à Beersheba.
Ah bon?
Mais on se parle très souvent, il y a le téléphone.
À partir de quand est-ce que vous avez des souvenirs précis? Le Pays Basque, par exemple, vous gardez des images?
Non, on était, si je me rappelle, c'est du couvent où on était... À l'Arcano, où on est.
Oui, chez les Dominicains.
L'attitude du couvent, c'est tout ce que je me rappelle de l'Espagne. Parce que trois mois, on nous a séparés. Gérald vivait dans un village à une cure, et moi j'étais dans une famille dans Saint-Sébastien, enfermée dans une chambre sans pouvoir sortir. Mais il était défendu de regarder par la fenêtre, mais il ne faut pas qu'on me reconnaisse.
Vous étiez malheureux, Robert? À cette époque-là.
En Espagne?
En Espagne, oui.
Oui, j'étais. La seule chose que j'avais un livre. La seule chose que j'avais, je l'aurais lu au moins 4 ou 5 fois ce livre. J'avais pas d'autre chose à faire. Tandis que ça, que Gérald était dehors, il était chez la cure, il y avait un jardin, il pouvait se promener, et moi non.
Mais est-ce que vous étiez malheureux au sens où vous étiez malheureux d'avoir perdu votre famille, perdu vos racines, perdu l'endroit où vous viviez, et où vous étiez, vous ne saviez pas où.
Voyez, nous on était, disons, endoctrinés par la religion catholique. On nous a dit, à nous, j'aime pas parler de ça, mais c'est la raison, on nous a dit que les Juifs ont tué Jésus. On nous a levé sous, on a fait notre baptême et première communion à l'âge de 6 ans. Et pendant ce temps, on servait à l'église de Vif. On était imprégnés de la religion catholique. On ne savait pas que c'était la religion juive. On savait que nous, on nous a fait une opération à l'âge que c'est et que nos parents appartenaient à la religion. C'est tout. On était les enfants sont des personnes naïves. Ils croyaient ce qu'on leur disait. Ce qu'on disait que les catholiques disaient la vérité.
Je suis un peu surpris de vous entendre si bien parler français. Vous avez quitté la France en 1953, 67 ans après, vous parlez aussi bien français. Ça veut dire que vous restez attaché à la France?
Disons que j'ai fait 2 ans de médecine à l'université de Genève. C'est-à-dire les 2 premières années de l'étude de médecine, je les ai fait à Genève. C'est pour ça que je sais encore... que j'ai renouvelé la langue française. Après, les autres années, je les ai fait à Jérusalem. C'est pour ça que je sais encore. Mais de temps en temps, je lis des livres, je parle le français à certaines personnes en Israël. Mon frère, en contraire, il sait beaucoup moins cette langue que moi.
Elle vous gêne un peu? La France vous gêne un peu?
Non. Parce que la France, bon, pourtant, elle a permis à mes parents de vivre à la tronche. La France, pour moi, c'était un pays que jusqu'à l'âge de 11 ans que je suis allé en Israël, c'est le seul endroit que je connaissais. Alors, en France, pendant ce temps, on se portait bien, on était à la crèche, on avait à qui parler, mais... Je n'ai pas de...
De rancœur?
de rancœur à la fin.
À la fin de mon histoire, vous découvrez donc que vous êtes juif,
oui,
et qu'il va vous falloir devenir juif, même si vous l'êtes. Est-ce que ça a été difficile pour vous, à l'âge de 11 ans, de devenir juif ?
Non. Tout le temps, on fuyait d'être juif. Mais du moment qu'on a rencontré notre famille, on savait qu'on appartenait à ces personnes. Il y a une autre chose.
Oui.
La famille Kaufmann qui habitait à Grenoble, c'était ma marraine. On ne sait pas pourquoi, mais elle venait nous visiter fréquemment à la crèche de Grenoble. Mademoiselle Bon lui donnait la permission de nous voir. Et de temps en temps, on allait chez elle aussi pour fêter les anniversaires et tout ça. En arrière-train, disons, il y avait toujours la pensée qu'on appartenait au peuple juif, malgré ce qu'on nous racontait que les juifs ont tué Jésus. Je crois que son fils Fred est encore en vie à Grenoble. Elle est la raison principale que la religion juive était toujours dans l'arrière-tête, disons. C'était pas une chose étrange que tout d'un coup, on changeait d'une partie pour aller à une autre façon de vivre. Je ne sais pas pourquoi personne nous a expliqué cela, mais on a pris cela comme une chose normale de la continuité de notre vie.
Quelle a été votre vie ensuite en Israël ? Je crois que vous êtes devenu chirurgien pédiatrique.
Oui, c'est ce que j'ai fait jusqu'à il y a... Maintenant, je suis en retraite à cause de mon âge, mais c'est jusqu'à 2007, je pratiquais ce métier à l'hôpital de Beersheba, Soroka.
Et vous ne vous êtes évidemment jamais éloigné de Gérald. Cette histoire vous rend inséparable.
Non, à part que nous nous a séparés en France, non. Gérald était toujours dans la rue.
Cette histoire vous rend inséparable.
Bien sûr, c'est mon frère aussi. À part l'histoire, c'est mon frère. C'est une partie de la famille.
Vous en parlez entre vous, de ce qui s'est passé après la guerre, de temps en temps, aujourd'hui ?
Non. Chacun parle sur ce sujet, mais entre nous deux, on n'a pas discuté.
En Israël, vous êtes identifié, lui et vous, comme les enfants Finali ?
De temps en temps, oui. Quand on demande notre nom pour certaines personnes, on dit « Ah, les deux frères, oui, maintenant personne ne se rappelle de cette histoire. » C'était l'Antiquité, disons.
Je vous remercie infiniment, Robert Finali, d'avoir accepté de réveiller cette antiquité, comme vous venez de le dire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.